Non, non, la lutte des femmes, elle n'est pas finie. La lutte des femmes, la lutte des êtres, parce que comme moi, on m'a dit, oh, t'es féministe. Non, moi, je suis une femme dans un monde où il y a des hommes, des enfants, des femmes. Il faut trouver des consensus pour vivre le plus agréablement possible. Ce n'est pas le cas en ce moment, hélas. Mais enfin, il faut trouver des moyens. Et des moyens, moi, je n'ai encore pas trouvé de moyens simples. C'est ça, l'être humain, il a conscience de sa souffrance et bon. Il faut qu'il s'accommode de ça, mais il faut trouver des consensus. Et la lutte, ça fait partie, à mon avis, ça fait partie du déroulement, de l'évolution et du développement de la conscience.
Je crois qu'ils ont été convaincus, là.
Il y a des gens... Vous avez déjà fait une personne du MLAC, vous voyez
Ah non, non, c'est fini, ça. Le MLAC, c'est éteint. C'est les bonnes femmes. Et moi, j'ai 80 ans bientôt, elles ont le même âge, hein. Alors bon, moi j'ai dit aux filles, c'est pas maintenant à mon âge qu'il faut que j'aille militer dans les rues pour faire. Mais non, mais le MLAC, c'est pas. Ça a été éphémère. Ça a été pour poser le problème. Ça a fait une étincelle. Mais nous, en tant que mouvement, on était là, on avait gratté, préparé les esprits. Et parce que les filles du MLAC, c'était des filles. Des bonnes femmes qui avaient commencé à se bagarrer sur les histoires de contraception. Hein. Souvent, c'est
des jeunes militantes étudiantes comme moi qui arrivions de 68 et qui étaient au MLF ou dans une organisation d'extrême gauche et qui avions bien conscience que le boulot du planning, il était capital, qu'il fallait l'appuyer et s'y coller. Et puis des copains aussi. Il y avait, ce qui était bien quand même, c'est que c'était une partie du MLF ne voulait pas parce que c'était des trucs hommes-femmes, oui. Mais la plupart, on disait vous faites chier, de toute façon, c'est une bagarre amenée, hommes et femmes ensemble. C'était vraiment ponctuel, hein, le MLAC.
Là où j'ai vu qu'on avait un petit peu gagné la partie, c'est qu'un jour, j'ai des amis qui étaient très pieux, très croyants, très cathos. Ils m'ont dit, tu sais, Yamina, on voudrait bien que tu viennes un jour. C'était à Autun, hein, vide d'évêché et tout. C'était vraiment. Et on aimerait bien, on a des amis qui voudraient apprendre des trucs et tout. Et j'avais fait une réunion avec un groupe de gens et je suis sûre que ça a fait un peu tache d'huile au sein de cette communauté catholique qui était un peu effrayée. Et d'ailleurs, de là sont partis les mouvements qu'on appelait Vie Nouvelle. La CFDT et tout ça, c'est des cathos, hein. Et ils ont ouvert leur esprit alors à l'écologie, à la famille.
Depuis, ils sont refermés, la CFDT.
Oui, moi, je pense que tout mouvement arrive à une espèce d'explosion. Et après, ça se régule parce qu'il y a des lois qui arrivent. C'est pris en main par la société, les tout-puissants de la société. Et s'il n'y a pas toujours le petit aiguillon de ceux qui réfléchissent encore et qui ont envie d'aller plus loin, de rechercher, de retrouver ou de, je sais pas, de conquérir quelque chose, faut pas s'endormir.
Mais quand il y a eu cette vague de professionnalisation avec la loi, c'est les militantes d'avant qui sont trouvées à
Il y en a qui se sont, parce que c'était des femmes bénévoles, qui souvent... Non, il y a eu des femmes bénévoles qui avaient besoin de gagner leur croûte, parce qu'à ce moment-là, on a commencé à avoir des divorces, des femmes sont avec des gosses et tout, qui ont accepté de travailler là. Moi, je préfère apprendre des études, mais on m'avait proposé d'être conseillère familiale, mais ça m'emmerdait, non. Ben, c'était pas mon truc. Et donc, voilà, mais il y en a eu qui ont accepté, mais qui ont très bien fait le boulot, quoi. Et qui ont continué des études de psy, enfin. Mais elles étaient plus dans le mouvement.
Il y en a, oui, peu.
Bon, dans celles que j'ai connues, il y en a pas mal qui ont fait des trucs.
Mais du coup, vous dites qu'il y a eu ces 7 ans où il y avait plein de joie et les gens se parlaient. Et...
C'était avant.
Quand on y croyait encore, tout.
Mais ça aussi, ça s'inverse, quoi. C'est-à-dire avec le mouvement d'institutionnalisation, il y a un truc que vous ressentez à ce moment-là aussi qui remeurt, quoi. De la vie dans les bistrots, de tout ce que vous disiez, quoi.
Non,
de
mais
la joie.
Il y a eu aussi
de...
toutes les conditions de la société. Je vais pas reprendre un truc politique. Il y a eu la crise de 73, moins de sous, du chômage, le chômage qui monte, et les gens qui ont plus de sous. Et
puis les luttes qui ont été cassées.
Et voilà.
Libre qui a été quand même une lutte emblématique en France. Ça a représenté quelque chose, hein, Libre. Et ils n'ont pas eu gain de cause, finalement. Ça a été démantelés, ils sont tous retrouvés au chômage,
Bon, alors, on a gagné le Larzac, mais on a perdu chez Lip. Et puis la crise qui arrive là-dessus, ça a vraiment évolué, cassé quelque chose.
Ça a évolué surtout vers l'écologie. On a gagné le Larzac parce qu'on a évolué vers l'écologie. C'est tous les Dumont et compagnie qui ont poussé la société. Mais l'écologie, on n'est pas au bout, là.
Oui, c'est vrai, c'était les premières luttes anti-nucléaires aussi à ce moment-là. Oui, c'est là qu'il y a eu Creys-Malville avec la mort de Vital Michalon. Alors les mouvements en plus qui étaient en pointe,
on s'est dispersé là-dedans. Ouais.
Donc ces trucs-là, le MLAC, tout ça, on retombe avec l'institutionnalisation par rapport aux luttes sur l'avortement et tout. Les groupes, le PSU disparaît, se font dans des tas de machins et tout, écolo ou pas écolo, il y en a qui partent au PS et tout. Oui, un type comme Rocard, par exemple, c'est un type qui était pendant la guerre d'Algérie, il était au PSU, il luttait contre l'État français. Enfin, il y a eu toute une recomposition qui s'est faite du mouvement issu de mai 68 et de la guerre d'Algérie, enfin de la guerre d'Algérie de mai 68, qui s'est faite dans les années 75-76, qui fait que, entre les luttes qui aboutissent, enfin, ouvrières qui se cassaient la gueule, l'écologie qui émergeait avec le mouvement anti-nucléaire et les luttes des femmes qui avaient quand même abouti en partie et tout, puis la crise, ça c'est puis le début du chômage, ça s'est un peu délité. Et c'est comme ça que d'ailleurs le PS a un peu récupéré la flamme, quoi. En disant, vous allez voir, nous au gouvernement, on va vous faire des choses belles. Donc les gens, il faut voir, en 80, la joie,
les gens étaient contents.
Les gens, ils étaient heureux. Heureux, mais pareil, la joie. Alors, ça s'était un peu éteint. Hop, Mitterrand élu en 81, les gens étaient vachement heureux. Les deux premières années, vachement contents. Il appliquait presque son programme. En 83, c'était fini. Hein. Alors là, terminé.
Mais qu'est-ce qu'il y a eu?
Ils nous ont coupé les pattes.
Non, mais qu'est-ce qu'il y a eu les
Bah, le PS.
L'Europe aussi.
Bah, déjà le PS en France, on parle de la situation.
Ben non, mais attends, le PS, il n'était pas tout seul. Les partis politiques.
C'est pas l'Europe. À l'époque, c'était pas l'Europe, c'est le PS qui a fait une politique de droite. Point barre. Ils ont commencé là.
Ils n'étaient pas tout seuls et tout le monde était dans une politique de droite. C'était généralisé.
Alors, on va commencer à s'engueuler, on va parler d'autre chose.
Moi, de toute façon, je m'en fous des partis politiques, je m'en suis toujours foutu.
Alors pourquoi tu soutiens le PS?
Mais je le soutiens pas. Le PS, il était inscrit comme nous dans une situation donnée. Et puis ils ont fait ce que le capital commandait, c'est tout. Il n'y a pas de parti politique qui ne subit pas ça.
Enfin bref, voilà. Donc mai 68 a eu des retombées parce que tant qu'il y avait de l'espoir et puis des luttes se développaient. Mais quand elles ont commencé à se casser la gueule, effectivement, ou qu'elles ont été reprises institutionnellement.
Et puis il y a eu aussi que toutes les femmes qui militaient là-dedans, la plupart, elles se sont mises à travailler parce qu'il fallait bouffer. Alors quand les maris étaient au chômage, il y avait une femme qui travaillait. Voilà, tout le monde a partagé les choses pour essayer de survivre. Hein. Vous êtes sortis de là, vous, de ce chaos. Et on sort toujours du chaos, hein. De toute façon.
Mais je me demandais un truc par rapport à votre rapport au fait que vous pratiquez des avortements illégaux et dans le film dont il parlait tout à l'heure, on voit c'est des femmes, elles sont dans le sud de la France, elles passent en procès parce qu'elles se font attraper. Oui. Puis on voit à leur procès, il y a plein de monde, quoi. C'est un énorme procès.
Oui, parce que tout le monde sortait.
Et je me demandais, dans le coin là, vous faisiez ça, il n'y a pas eu vraiment de procès comme ça? Personne ne s'est attrapé?
Il y a eu à Paris, la Bobigny, mais chaque fois qu'il y avait un problème, on était dehors. Hein.
À Dijon, non.
À Dijon, on a fait partir des femmes par carentier pour aller se faire avorter à l'étranger. On payait, ceux qui n'avaient pas de sous, on se débrouillait pour trouver des sous.
Pour vous dire un peu quand même, le rapport de force, il n'était quand même pas en faveur du pouvoir par rapport à ça. Pour vous dire un peu, moi j'étais déjà éducatrice spécialisée, j'ai commencé en 73. En 74, dans la boîte où j'étais, il y a une jeune fille, et donc j'étais dans l'éducation spécialisée avec des adolescentes dites déficientes intellectuelles. On a une gamine qui s'est retrouvée enceinte, pas dans mon groupe, dans le groupe d'à côté. Et bien la directrice, elle a trouvé du pognon dans ses caisses, elle s'est démerdée, elle a filé le pognon à un éducateur, enfin une éducatrice, c'était une éducatrice. Ils l'ont emmenée jusque à Calais, ils l'ont foutue dans le ferry. Il y avait quelqu'un qui était prévu en Angleterre pour la récupérer, qui l'a emmenée dans une clinique.
et qui elle a donc subi son avortement, elle est revenue, les ducs l'attendaient, ils sont venus. Et la directrice avait financé le truc. C'est pour vous dire le type de rapport quand même qu'on avait à cette époque-là, y compris des gens qui avaient des responsabilités et tout, étaient prêts à se mouiller parce que on avait, enfin, il y avait eu quand même un vent de folie qui était passé. Je ne sais pas si c'était dans le monde entier, mais sur la France en tout cas sûrement, parce que 68 c'était quand même mondial. Sur la France qui faisait que des tas de gens, y compris à des postes déjà de responsabilité, comme ces chercheurs, comme Testor qui était un jeune chercheur, ou ces profs de fac, ou tout, qui se mouillaient face à la loi et qui se mettaient dans l'illégalité la plus totale. Ouais. On pourrait plus l'envisager. Et à partir des années 77, à peu près 75-77, ça n'était plus possible, ça. Il y a vraiment quelque chose qui s'est passé en France, qui s'était développé et qui s'est perdu. Rémi Fraisse, en 74, et la France entière était dans la rue, je vous le dis.
Moi, à Dijon, on s'est beaucoup bacarré, ceux qui étaient pour poser le problème contre des gens. Alors ceux-là, ils sont partis, de toute façon. Puis d'ailleurs, ils nous disent même plus bonjour maintenant qu'on est en
Vous avez un local à Dijon ?
On était rue Chaussier d'abord et après on était rue de Montigny.
Ah oui, rue Chaussier c'était un truc des sociétés.
À l'hôtel des sociétés.
Puis après rue Montigny c'était.
C'était pas l'hôtel des sociétés, c'était en face.
Vous n'étiez pas là de manière clandestine, quoi. Tout le monde savait que vous étiez là, même si c'était interdit.
Oui, mais on n'était pas dans les journaux, c'était de bouche à oreille. Hein. Ouais. On nous a jamais attaqué dans notre local et tout, parce que on servait, hein. On faisait soupape de sécurité, parce qu'il faut jamais, oublier que l'État est pas fou. Quand il voit quelque part qu'il y a une soupape de sécurité qui empêche que les choses éclatent, il laisse les choses se faire. Et puis après, il récupère tout bon, c'est tout bon pour eux. Là, le vote des femmes pour Giscard, c'était ça, il a envoyé la petite merveille à l'Assemblée, elle s'est bien fait copieusement insulter, tout ça, traiter de pétasse, de salope, je sais pas quoi. Et elle a continué à parler avec une dignité extrême. Moi, cette bonne femme-là, c'est pas mes idées, elle a pas mes idées, mais j'ai un petit peu de... Je trouve qu'elle a bien... Elle a bien parlé. Et elle a surtout bien tenu tête à cette bande de...
Il fallait le faire.
De Bougnafier, hein, parce que... Combien ils sont, les députés, là?
Ils étaient tous là.
Alors, pendant qu'elle parlait, ils papotaient entre eux, puis de temps en temps, on entendait des mots déplaisants qui jaillissaient. Et elle a continué. Et je trouve qu'elle a été très très courageuse et très à la hauteur de l'événement. Elle mérite bien la reconnaissance qu'on lui doit. Mais que l'on ait oublié de parler de tout le travail sous-jacent, oui, qui avait été mené par le mouvement français, pas le planning familial, le mouvement français pour le planning familial. J'y tiens, ça. Parce que là-dedans, on s'est posé des questions, mais toutes les questions de base. Et c'est pour ça qu'après, il y a eu Choisir. Donc, mouvement issu de ce fameux procès de Bobigny, c'était les socialistes qui étaient là-dedans d'ailleurs, c'était noyauté ici à Dijon, c'était noyauté patriote, on n'était pas d'accord avec eux. Et puis après, en même temps, il y avait le black, mais ça c'était les artisans de l'avortement qui ont pratiqué la méthode Carman. Et moi j'ai connu un chirurgien qui faisait des avortements dans un hôpital à Pithiviers, il le faisait... C'était secret, hein, mais il faisait. Il faisait partie du planning aussi. Puis alors, il en a eu marre un jour qu'on le traite d'avorteur. Il a continué d'en faire quand ça a été légal, mais on l'a traité souvent d'avorteur. Hein. Mais il ne se faisait pas payer. Hein. Les femmes, elles avaient le droit à la sécu. C'était un acte médical. Il avait trouvé un cas, je ne sais pas quoi. Mais bon, c'était terrible aussi parce que c'était une atteinte à la liberté.
D'ailleurs, la dernière femme guillotinée en France, je crois que ça a été
une
femme qui pratiquait des avortements.
Oui, clandestin. Elle a été décapitée à cause de... parce qu'elle avait pratiqué... Elle rendait des services, en fait, elle le faisait même pas pour de l'argent. Elle rendait service à des gens éplorés.
Il y a un film, tu sais pas, oui. C'est Chabrol, c'est Huppert qui joue son rôle.
Alors quand je faisais des dessins, c'était abstrait, c'est toujours un peu abstrait, hein. Pour faire un dessin comme ça, les lunettes, comment elles font pour... surtout quand elles n'ont jamais osé... Eh bien, écoutez, je vais vous dire un truc ça, qui m'avait assez intrigué. Les filles catholiques, tout ça, les françaises en général, elles étaient comme ça très... Oh là là, mon Dieu, oh là là, bon, allez mettre les doigts dans le vagin, oh quelle horreur, bon, enfin, je me demande même comment elles faisaient là, mais là, enfin, à peu près. Et ben, les femmes musulmanes étaient beaucoup plus capables de comment dire, d'accepter, d'entendre et de comprendre. Et elles ont une autre éducation avec leur corps, parce que d'abord, quand elles sont... C'est les femmes qui s'occupent de ça. Alors, entre elles, les plus vieilles, peut-être doivent leur apprendre des choses, j'en sais rien, mais j'avais trouvé.
Mais ils sont pas les hammams, hein.
Et voilà, oui, peut-être aussi. Peut-être que les hammams sont propices à l'explication.
Ben, les femmes se rencontrent dans la société musulmane. Parce que le problème aussi dans la société catholique, c'est que les femmes se rencontrent qu'à la messe, bien chapeautées et habillées. Tandis que les femmes musulmanes, elles se retrouvent à poil au hammam dans la chaleur.
Oui.
Ça change tout à fait des choses dans le rapport au corps. Et ça, je crois que les féministes actuelles, là, les genre Badinter, parce que toutes ces nanas-là, les Badinter et tout, elles y étaient. C'était pas elles qui menaient les luttes.
Oh non, elles
n'étaient pas dans la rue, dans le salon. Elles étaient au salon, elles n'étaient pas dans la rue, dans les manifs et trucs comme ça, puis elles y sont pas allées au MLAC et tout comme ça. Elles ont complètement oublié ce qu'était la France de leur jeunesse et que. Elles commettent des contresens à la fois sur la vie des femmes françaises et sur la vie des femmes musulmanes aussi. Je ne défends pas l'islam, hein. Moi je suis comme elle, ni Dieu ni maître, ni bagnole, si c'était possible d'ailleurs. Il y a une méconnaissance de ce qu'est la vie des femmes musulmanes, et il y a une liberté de mouvement chez les femmes musulmanes que les catholiques n'ont jamais eue. Il y a une liberté du corps de la femme musulmane qui n'existe absolument pas chez les cathos. Femmes, hein. Oui. Il y aurait aussi à apprendre des autres...
Je vais vous lire là, en 1971, là, quand on a... c'est Simone de Beauvoir qui a rédigé le texte. Et alors, voilà ce qui est dit, c'est un petit... 1 million de femmes se font avorter chaque année en France. Elles le font dans des conditions dangereuses, en raison de la clandestinité à laquelle elles sont condamnées. Alors que cette opération pratiquée sous contrôle médical était plus simple. On fait silence sur ces millions de femmes. Je déclare que je suis l'une d'elles, je déclare avoir avorté, de même que nous réclamons le libre accès aux moyens anticonceptionnels. Nous réclamons l'avortement libre, et on avait ajouté libre et gratuit. Donc, parce qu'on pensait qu'il fallait que la sécurité sociale rembourse, hein. C'est cher un avortement quand même, même à l'hôpital, il fallait avoir 800 francs à l'époque, c'était cher. Hein. C'était,
bon, oui, le SMIC était à 800 cher. Francs,
oui, voilà.
C'était un SMIC.
Et c'était évident que les avortements allaient se passer à l'hôpital après.
Ah ben oui, on l'a obligé, les médecins étaient obligés. Hein. Ils avaient fait des services où on pratiquait l'avortement.
À la maternité.
C'était à la maternité. Et alors les médecins qui avaient... on ne pouvait pas obliger les médecins à le faire. Et il y a des gens qui l'ont accepté de le faire. Mais il y en a d'autres qui ne voulaient pas. Alors moi je me rappelle d'une conférence. On avait parlé d'avortement, il y avait le médecin chef de l'hôpital. Je ne sais plus comment il s'appelait, un sinistre imbécile. Il dit, à la fin, ils font un petit pot, comme ça se fait. Alors, il y a du champagne, disons, ils avaient du champagne, des petits fours, tout ça, tout le monde trinquait. Et tout d'un coup, alors comme moi, j'étais un peu la meneuse de bagarre, et il s'avance vers moi, et puis il me tend une coupe de champagne, et je la prends, et puis il commence à me dire... Si vous croyez, heureusement que j'ai mes petites infirmières là pour m'aider et pour me soutenir, parce que si vous croyez que c'est agréable d'avorter une femme, mais c'est très difficile. Je dis, oh monsieur, si vous ne connaissez pas votre métier, vous n'avez qu'à aller garder les oies, je ne vois pas le champagne aller vous rendre. Et je suis partie, mais j'étais scandalisée, non mais sans blague, un obstétricien qui me disait ça en pratiquant la méthode Carman. Alors ces salauds-là, ils furent téléphone pour leur montrer qu'elles allaient voir, elles allaient souffrir un peu, sans les endormir. Je trouvais, non mais c'est des meurtres barbares.
On n'avait même pas besoin d'être endormi, hein. On donnait un petit cachet pour apaiser l'angoisse que ça crée quand même d'avorter, c'est pas facile. Quand on a pris la décision, bon ça va, on l'a prise, mais c'est une décision à prendre. Et dans des conditions dans lesquelles clandestinité, c'est encore plus difficile.